êtes à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h.
Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de la radio pendant que vous pilotez?
Passe-moi cette putain de radio.
T'écoutes la radio?
J'écoute jamais quand t'as un match.
Vous aimez mieux les disques que la radio?
Et toi, je réfléchis.
On a une époque où tout le monde ment. Les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux.
Monsieur, comment sait-on si les enfants sont bien arrivés?
Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
Salut, bienvenue à l'écoute de la bande son, en direct comme chaque lundi à 20h sur JetFM 91.2 à Nantes, en DAB, en podcast et sur jetfm.fr, et plus précisément à l'écoute de la bande son interview qui a le grand plaisir de recevoir pour cette édition Denis Zorniotti, que nous recevons pour la quatrième fois et pour cause, puisque Denis est co-auteur aux côtés d'Ulysse Ledo du nouveau tome d'une histoire du cinéma français consacrée aux années 60 et sorti comme toujours chez cet excellent éditeur de livres de cinéma, Leitmotiv. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir Jérôme. Oui, effectivement, je commence à avoir mon rond de serviette hein, Jet FM.
Quasiment.
Mais en tout cas, encore merci de m'accueillir pour ce nouveau tome.
Eh bien, surtout merci à toi et bravo hein, une fois encore pour ce nouveau tome d'une histoire du cinéma français, plus encore avec celui-ci qui, si je ne m'abuse, est bien plus épais que les précédents, qui étaient déjà pourtant assez conséquents, mais nous allons parler de tout ça tout au long de cette émission. Un nouveau tome très riche, hein, très gourmand, on y apprend plein de choses comme toujours, il contient de formidables portraits d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de films que l'on va évoquer. Et puis avec les années 60, on commence un petit peu à se rapprocher de ce qui n'est pas encore si loin que de nous que ça quand même, dans le sens où les événements de cette décennie nous marquent encore aujourd'hui et continuent de faire parler, hein, qui n'a pas encore entendu de mai 68 en 2022. Et il faut dire aussi que cette époque était aussi extraordinaire sur plein de points. Et d'ailleurs, tu ouvres ce tome, Denis, avec une longue introduction intitulée « La France qui change ». Tu fais à la fois une sorte d'explication de texte sur ce qui va suivre dans le livre. Et puis, tu recontextualises aussi le cinéma français avec l'impact des événements de l'époque, le bond de la société de consommation, la multiplication des automobiles, des réfrigérateurs. C'est assez drôle d'ailleurs quand on lit ton intro avec notamment les pourcentages d'évolution en 10 ans et même plus. Entrée également de la télévision chez plus de 60% des foyers français, création de l'ORTF, lancement d'une deuxième chaîne, etc. Des événements historiques comme mai 68, je viens de le dire, et puis également la guerre d'Algérie jusqu'en 62.
Oui, c'est une période très riche d'une France qui change, qui joue beaucoup d'ailleurs là-dessus. Ça va être le cas après d'ailleurs dans les années 70 avec Valéry Giscard d'Estaing, mais là c'est déjà le cas. Et effectivement, on a historiquement la décennie est quand même marquée par deux événements en début et en fin, la guerre d'Algérie, les événements comme on disait à l'époque, un peu une petite censure en tout cas
voilà,
sur la télévision disait les événements jusqu'en 62 et effectivement mai 68 et entre les deux. Un chamboulement technologique, la société de consommation, comme tu as dit, l'équipement qui arrive, les supermarchés qui arrivent, qui vont complètement changer la face de la France. Et le cinéma est aussi le témoin de ça, en fait.
Mmh. Et le livre est divisé, donc, comme à chaque fois, par année, donc, au cours de cette décennie. Donc, si on démarre par 1960, c'est l'arrivée donc, du nouveau franc, le 1er janvier, dont me parle encore mon père, c'est dire. John Fitzgerald Kennedy est élu le plus jeune président des États-Unis aussi, voilà, qui marque symboliquement aussi cette décennie. Et puis, le livre s'ouvre avec, alors, à bout de souffle, de Jean-Luc Godard, qui est mort le 13 septembre dernier, à qui un très beau portrait aussi est consacré au début du livre, et qui rappelle notamment, en plus d'avoir été le créateur d'un cinéma expérimental qui rompt avec les codes du métier, le militant politique hein, qu'il était, dont son film Le Petit Soldat est sans doute un des premiers, voire le seul à l'époque, à parler ouvertement de la guerre d'Algérie.
Oui, le film était fait en 60, d'ailleurs il ne sortira qu'après la guerre, en 1963.
Ouais. Là aussi, c'est le rôle de la censure.
C'est le rôle de la censure, et d'autant plus qu'à l'époque, voilà, il parle d'OAS, hein, d'extrême droite, et ouais. Aussi, mais il y a une scène comme ça avec Laszlo Szabo qui joue dans le film, qui après est devenu aussi réalisateur, qui parle ouvertement de torture dans les deux camps, côté FLN et côté armée française, et ça, effectivement, à l'époque, c'est absolument inaudible pour le gouvernement. Et même en 63, c'est très difficile. Mmh. Après 1960, c'est vrai que c'est une année intéressante parce que on a mis l'accent là-dessus. Et c'est un peu le sens même du livre. Il y a à la fois la modernité qui arrive avec la nouvelle vague, vraiment, qui est arrivée avant, 59, mais vraiment, Godard marque ça. Mmh. Mais aussi la persistance, cette année-là, c'est le dernier film de Jacques Becker, Le Trou.
Oui,
il y a aussi film. Les yeux sans visage de Franju, qui est un film totalement à part. Ouais. Et on tout le livre est là-dessus, quelque part, sur à la fois ce cinéma d'auteur qui naît à ce moment-là, et ce cinéma populaire français classique qui continue, et toute la décennie, même notre cinéma actuel, est toujours bâti sur ces deux jambes-là.
Bien sûr.
Et dans les années 60 et 70 notamment, c'est vraiment l'alpha et l'oméga du cinéma français dans un bel équilibre qui fait que le cinéma populaire est de qualité et le cinéma d'auteur est de qualité également.
Ouais. Qu'on aime bien aujourd'hui d'ailleurs un peu opposé, toujours ce cinéma populaire et le cinéma dit d'auteur, qu'on faisait peut-être pas forcément à l'époque.
Après, il faut voir que à bout de souffle, il y a plusieurs millions de personnes qui vont le voir. Même
ça
le film
très populaire.
Voilà, le film Muriel, qui est un film vraiment expérimental, ça devient un phénomène de société. Les gens vont le voir.
Ouais.
C'est intéressant d'ailleurs dans le film Diaboloman de Diane Curis, les lycéens disent il y a une discussion. Est-ce que tu as vu le film de René?
Ouais.
Et voilà, il y a ça qui est vrai, qui fait que les gens vont au cinéma. Le cinéma populaire est aussi il y a des passerelles entre les deux. Philippe de Broca qui va faire L'Homme de Rio notamment en 64, il commence aussi, il est proche aussi de la nouvelle vague. Donc il y a ce côté-là où il y a une porosité entre les deux cinémas et les gens s'apprécient.
Ouais. Du coup, il fallait forcément ouvrir ce livre par À bout de souffle.
Ah forcément, je ne sais pas. En tout cas, ça a été notre choix et je pense que c'est quand même un film emblématique qui rompt avec les codes. On l'a dit, voilà, Godard change la manière de monter au cinéma.
Ouais.
C'est intéressant puisqu'effectivement, il réinvente, ça existait il y a très longtemps, mais le jump cut, par exemple, il fait des ellipses, il fait en sorte de tourner le film dans sa continuité. Il apporte beaucoup de choses. C'est amusant, parce que Henri Decoing, à l'époque, quand il voit le film, Henri Decoing, grand réalisateur français depuis les années 30, notamment La vérité sur Bébé Donge, enfin, des films remarquables, il dit, finalement, je vais dire à mon monteur... Ne t'inquiète pas, ne t'occupe plus des raccords, il y a Godard.
Oui, il y a Godard maintenant. Donc...
Maintenant, voilà, on peut...
Parce que pour les traditionalistes ou, on va dire, les...
Les puristes,
les puristes,
les classiques.
Ça paraissait totalement désordonné, désorganisé.
Alors que pour la peine, Godard a expliqué assez justement, qu'est-ce que c'est qu'un raccord. Enfin, on mêle une image à une autre à la suite. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de rechef que ça se fait pas? Donc lui, il s'est dit, tiens, faisons-le. Et le film est... Enfin, moi, c'est un des films que je peux voir comme ça régulièrement, sans me lasser, parce qu'il y a quelque chose de vraiment vivant dans ce film-là, de léger, qui fait qu'on est emporté. Enfin, il y a la scène aussi, j'en parle dans le livre, du début, la fameuse scène du Herald Tribune, qui est tournée un peu en caméra cachée, à la dérobée, au milieu des gens. Enfin, il y a vraiment cette volonté de légèreté, de plus s'encombrer d'une machinerie importante et de montrer la vie.
C'est ça. Il fallait filmer la vie telle qu'elle était.
Telle qu'elle était. C'est tout l'apport de ce film-là qui donne une bouffée d'oxygène énorme et qui va influer, même si la nouvelle vague, finalement, va pas durer très longtemps. En tout cas, les premiers succès vont se transformer en échecs, mais ça va donner envie à plein de gens de se dire il y a d'autres façons de faire des films.
Il y avait le choix de la lumière aussi, qui était différent.
Tout à fait. Là, il y a Raoul Coutard, qui est beaucoup chef-op sur les films de la nouvelle vague, qui apporte son style à lui. Lui, d'ailleurs, avait été... pendant la guerre d'Indochine, il avait été reporter là-bas. Il fera à la fin de en 1970 à Aubin un film sur l'Indochine. Donc, il apporte aussi ce regard un peu naturaliste et simple en disant on n'a pas obligé de faire des lumières très sophistiquées de studio. On va dehors et on fait avec nos caméras légères. On fait un film
avec lequel je crois que Godard voulait pas trop travailler au début. Qu'on lui a un peu imposé.
Finalement,
ça a été
Le coup de foudre artistique en tout cas. Oui, tout à fait.
Comment on peut définir d'ailleurs, alors c'est assez bien expliqué dans le livre, on va sans le trop dévoiler, mais comment on peut expliquer la nouvelle vague? Qu'est-ce que c'est? Si aujourd'hui on demande, c'est quoi la nouvelle vague? Moi, si mon neveu me dit, c'est quoi la nouvelle vague?
Alors, à la base, la nouvelle vague, ça se fait en réaction, d'une certaine manière, vis-à-vis d'un cinéma classique des années 50, surtout qu'on... péjorativement appelé la qualité française, un cinéma où l'importance du réalisateur est aussi importante finalement que celle des techniciens. Un cinéma de techniciens, de studios, et le réalisateur n'est qu'un technicien de plus dans cette production cinématographique. Là, il y a la volonté de se dire, ben non, un cinéaste, ça doit être un auteur avec des histoires qui seront peut-être plus simples, mais qui seront plus justement réelles, trouver un sens plus léger, plus authentique, plus sincère du cinéma, moins fabriqué. Ouais. Et avec la volonté justement d'accorder les moyens techniques à cette vision plus simple, plus spontanée. Donc là, on tourne avec des petites caméras. On est d'ailleurs au début en post-synchronisation pour pas avoir la lourdeur de tout un dispositif. Mm-hmm. Et la volonté aussi de favoriser le décor naturel par rapport au studio. Et voilà, et y compris de c'est aussi toute une nouvelle vague de comédiens.
Oui.
Effectivement, Jean-Paul Lelmaudon, il va y avoir Anna Karina, y avoir Jean-Claude Brialy qui avait chacun avait déjà fait des petites
Jean-Pierre
armes.
Léo.
Jean-Pierre Léo,
couverture du livre.
Voilà, Jean-Pierre Léo qui est à part hein, quelque part, hein. Jean-Pierre Léo, c'est Jean-Pierre Léo y compris dans son jeu.
Ouais.
Voilà, il y a cette espèce de je trouve de bouffée d'air qui arrive et qui exprime surtout l'idée. On casse un dogme. On avait imaginé que le cinéma se faisait d'une certaine manière, devait se faire d'une certaine manière. Et là, au-delà même de la nouvelle vague, ça ouvre
Les champs des possibles.
Des champs des possibles. Moi, j'ai tendance à le comparer à l'impressionnisme, où effectivement, d'un coup, on est sorti, on sortait à l'extérieur, on n'était plus dans les ateliers, on était dehors, avec le tube de peinture et la palette, en essayant de reproduire la lumière naturelle. Et à partir de l'impressionnisme, tous les mouvements de peinture qu'on connaît aujourd'hui ont pu naître. Car d'un coup, on a dit, voilà, c'est possible de faire autrement. Et la nouvelle vague a cette importance-là historique.
Qui a aussi inspiré, quelque part, un peu le nouvel Hollywood.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça se voit encore. Brian De Palma, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, sa boîte de prod, ses bandes à part.
Oui.
Beaucoup d'Américains se réclament de cette nouvelle vague.
Ouais.
De Godard, de Truffaut, de Chabrol aussi. Enfin, voilà. Donc, ça a vraiment été important. Et on peut voir les premiers films de Coppola, par exemple, aussi. C'est très, très nouvelle vague. Hein.
Oui,
tout à fait. Les gens de la pluie, des films comme ça.
Ouais.
Donc, après, ils sont passés sur autre chose. Ils ont créé leur propre cinéma et l'influence est là.
Mmh. Autre chef-d'œuvre dont on parlait à l'instant, Le Trou de Jacques Becker, qui venait de mourir au moment où le film sort.
Oui, c'est vraiment ça arrive juste, le film sort et il meurt et où voilà, c'est complètement lié prématurément. Il était assez jeune et c'est souvent considéré comme son chef-d'œuvre.
Ouais.
Après, c'est vrai, c'est un modèle de scénario, de mécanique où effectivement les gestes remplacent souvent les dialogues. C'est un film extrêmement important pour ça
et
visuellement très fort et jusqu'à la fin qui est très ironique, puisque finalement ça va pas se passer très très bien.
Pas vraiment.
Mais on est dans un film qui joue sur les gestes, sur la répétition, sur un espace clos, peu de personnages, et par la mise en scène, par le talent de Becker, il arrive à en faire un film passionnant et très prenant sur ce dispositif très simple et ce scénario qui tient en trois lignes. C'est un modèle.
Et là, on n'était pas pour le coup sur la nouvelle vague, mais quelque chose de plus traditionnel.
Plus traditionnel,
on va dire.
Même si Becker, parce qu'effectivement, avant de passer au cinéma, les Truffaut, les Rivette, les Romère écrivaient donc dans les cahiers du cinéma. Donc, ils étaient très critiques avec plein de cinéastes dits de la qualité française, mais Becker ne rentrait pas là-dedans. C'était vraiment un des cinéastes préférés des jeunes Turcs des cahiers du cinéma. Et même d'ailleurs, à tel endroit que le terme de politique des auteurs, qui est vraiment l'étendard donné par les cinéastes de la nouvelle vague. Voilà, l'importance de l'auteur, le cinéaste c'est un auteur, et plus qu'une œuvre, enfin voilà, c'est lui qui la marque. Le terme a été inventé pour un film de Jacques Becker, qui paradoxalement est son film le plus grand public, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Grand film malade, disait Truffaut, en disant voilà la politique des auteurs, avec l'idée sous-jacente que même sur un film comme ça, on retrouvait quand même du cinéma de Jacques Becker.
Et puis il y a celui qu'on a cité également, Les yeux sans visage de Georges Franju, avec Pierre Brasseur et Alida Valli. Et alors moi, ça me fait très plaisir, puisque tu cites notamment dans le livre la reconnaissance de ce film auprès de grands réalisateurs comme Jess Franco. Alors particulièrement heureux de voir dans un livre encore citer Jess Franco pour l'horrible Dr. Orloff, John Carpenter avec Halloween ou encore Léo Scarrax plus récemment pour dans un autre genre.
Oui, dans Holy Motors notamment.
C'est ça.
Et même dans Annette, je pense qu'il y a une référence.
Il y a quelque chose à ça.
Voilà, exactement.
Ouais,
après, le film est marquant. Franju, il y a un portrait qui lui est consacré, c'est quelqu'un à part.
Et que tu expliques d'ailleurs même, c'est le lancement du cinéma d'horreur.
Oui, parce qu'à un moment, tout le film est là-dessus. Donc, c'est une des personnes qui disparaissent, une fille défigurée, un médecin qui, justement, se sent coupable et donc fait des opérations atroces.
Ouais.
Et tout le film est bâti sur on va le montrer ou on va pas le montrer. Et à un moment, il montre donc une scène gore.
Ouais.
Donc, en 1960, le film est en noir et blanc, sinon la scène serait très sanguinolente. Mmh. Et c'est une espèce de moment transgressif du cinéma, je trouve, pour un film grand public. Et voilà, parce qu'il y a quand même, c'est Pierre Brasseur, c'est Alida Valli, c'est des grands acteurs. Et il y a ce moment-là de passage qui va effectivement aboutir au cinéma gore dans les années 60.
Oui.
Tu connais mieux que ça.
Avec Bloodfist.
Bloodfist, voilà, en 64. Ouais. Voilà. Authentiquement, il y a ce côté transgressif de montrer une scène horrifique dans un film qui, par ailleurs, est une sorte de thriller d'ambiance où on joue beaucoup sur les lumières. Et Franju, intelligemment, est allé chercher Eugène Schuftan, qui était un chef-op, c'est le chef-op de Métropolis, qui a travaillé beaucoup dans le cinéma expressionniste pour faire son film et lui donner ce caractère un peu symbolique, un peu hors du temps, fantastique dans son atmosphère.
Alors, je le disais tout à l'heure, il y a un long portrait aussi de Jean-Luc Godard qui ouvre le livre. Et puis, il y a aussi un portrait de Jean-Paul Belmondo, alors qui est carrément affublé d'acteur de la décennie. Et tu expliques très bien pourquoi. C'est le seul qui arrive à la fois à jouer durant cette décennie dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire.
Oui, tout à fait. Il est vraiment sur les deux pieds d'égalité, toujours très bon d'ailleurs. Avec son jeu à part, totalement. C'est intéressant parce qu'on peut imaginer qu'il y a aussi Alain Delon.
Oui.
Mais dans les faits, Alain Delon arrive toujours un peu après Jean-Paul Belmondo.
On y reviendra sur le portrait d'Alain Delon, c'est quand même pas pareil en fait, c'est pas le même
c'est
jeu.
C'est pas pareil. Après, Alain Delon, les grands films, Monsieur Klein, je suis un peu plus
Belmondo,
réservé.
Belmondo va jouer dans de la comédie, comme des films beaucoup plus noirs, ou du cinéma d'auteur. Que Alain Delon, par contre.
Oui, il y a juste un film qui s'appelle Doucement les basses. Hein,
ouais.
Où il joue le rôle d'un prêtre en 71 de Jacques
Perret. C'est pas trop son truc.
C'est pas trop son truc. Et en même temps, on a l'impression Belmondo commence à faire des films en Italie. Delon prend sa suite. Après, il est très bien dans l'éclipse. Hein.
Oui, oui.
Belmondo fait Cartouche quelques années plus tard. Il fait La Tulipe Noire.
Ouais.
Il le suit, en fait.
Ah, ouais.
Il essaye de recoller à Belmondo. Mais Belmondo est toujours avant. Et Belmondo est plus brillant quelque part. Enfin, je pense qu'après, on peut avoir des fans de Delon qui ne seront pas d'accord, mais c'est quand même difficile c'est une position difficile à tenir, je trouve.
Il y a donc, on le disait aussi, l'excellent dossier sur la censure qui revient donc aux origines de ce phénomène, donc avec des actions qui vont durer durant plusieurs décennies aussi.
Oui, après officiellement, on dit que la censure s'arrête en 81.
C'est ça, avec l'arrivée de Mitterrand.
Et que le dernier film vraiment censuré par l'armée, c'est Allons enfants, le film de Yves Boisset. Après, maintenant, la censure prend d'autres tournures, parfois des interdictions d'affichage ou des films qui quelque part ne trouvent pas de distributeur.
Ouais.
Voilà.
Ou des interdictions.
Mais il y a pas ce côté officiel. Et là, dans l'idée, là, c'était de faire un historique un peu de la censure et de montrer que c'est comme une fusée à plusieurs étages. Et finalement, sur les problématiques des années 30 qui pouvaient être zéro de conduite, par exemple, interdit parce que incitation à la désobéissance ou l'âge d'or parce que c'est critique, le film est critique avec la religion, l'armée. Finalement, avec le temps, s'ajoutent d'autres types de censure. Dans les années 60, la guerre d'Algérie rentre totalement là-dedans. Dans les années 70 aussi, avec des films comme Avoir 20 ans dans les ORS ou RAS. Et petit à petit, il y a d'autres sujets qui deviennent sujets à censure.
Alors on passe à l'année 1961 avec la guerre froide qui atteint des sommets, le débarquement raté dans la baie des Cochons, la construction du mur de Berlin, l'investissement militaire américain au Vietnam, et puis une répression sanglante du préfet Papon lors d'une manifestation d'Algériens à Paris,
oui,
le 17 octobre, une manifestation sanglante. Et au cinéma sort Lola, le premier film d'un certain Jacques Demy.
Oui, alors on est à Nantes en plus.
Donc, bah voilà.
Jacques Demy, Nantes, Lola, c'était tout à fait normal de le mettre. Enfin, au-delà de ça, c'est un film extrêmement important. Moi, je trouve que c'est un film justement qui annonce les autres,
oui,
qui est parti d'un... Bah, il voulait faire un film en couleur et chanter. Il va attendre un petit peu, mais il y a quand même des chansons dans le film, notamment C'est moi Lola.
Ouais.
Et c'est un film qui... Tout est là. Et c'est intéressant de voir les Demy, parce que les films de Jacques Demy, jusqu'au récent, hein, jusqu'au dernier, c'est qu'il y a vraiment on peut suivre un parcours dans ces films.
Hein, ouais.
Puisqu'effectivement, dans Les Parapluies de Cherbourg, on retrouve un personnage qui dit avant j'ai aimé une femme, on voit une image de Lola. Lola, on va la retrouver dans Model Shop des années plus tard. Enfin, il y a tout un chemin à suivre,
ouais,
avec aussi des références, puisqu'il y a des références aussi à Bout de Souffle dans le film.
Oui,
enfin,
oui,
voilà,
il y a
un hommage à Ophuls, le film lui est dédié. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce film-là, qui caractérisent Jacques Demy et qui annoncent tout le reste. Hein.
Oui. Alors, en 61, il y a aussi Le Président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin. Donc là, on est plus sur un retour au cinéma de papa.
Oui, entre après, le film est d'une intelligence folle,
oui,
je trouve.
Oui.
Voilà, on voulait.
Jeu d'acteur de Gabin.
Il y a un portrait de. Il y a Bernard Blier également.
Ouais, ouais.
Bon, il y a un portrait d'Henri Verneuil, car Henri Verneuil, bon, qui a commencé dans les années 50 avec beaucoup de films, avec Fernandel. Donc là,
c'est ça.
Il prend une autre aura, une autre force, puisque là, il va faire des films extrêmement importants. Moi, je suis un fan de Weekend à Zuidkot, d'après Robert Merle, qui est vraiment un film formidable sur la débâcle à Dunkerque, un film à grand spectacle. Hein, et voilà, Le Président, c'est un film, en tout cas dans son discours, dans ses réparties, c'est un film extrêmement intelligent et très fin.
Il y a un portrait également à signaler de Lino Ventura, avec une très belle photo. Il y a toujours de très belles photos dans les livres de les différents tomes d'une histoire du cinéma français, et celui-là encore. Et puis aussi un joli portrait de Delphine Seyrig, dont on a évoqué à la rentrée dans la bande-son le film d'Harry Kummel, Les Lèvres Rouges.
Qui est un film très intéressant.
Oui, complètement. Et donc Delphine Seyrig, malheureusement décédée trop tôt, en 90, à l'âge de 58 ans. C'est assez émouvant aussi de voir son parcours de militante féministe.
Carrément, et vraiment dans les années avec Carole Rostopoulos.
Oui.
J'ai toujours un doute sur le nom de Carole, j'espère qu'elle m'excusera. Voilà, qui à un moment vraiment se mouille vraiment pour la cause féministe, qui met en boîte notamment à l'époque François Giroud comme secrétaire de la condition féminine, avec Mizot et Mazot sont en bateau, là, vont sur un bateau. C'est très très drôle. Et là, effectivement, à l'époque, bon, c'est une actrice rare mais précieuse. Avec les films d'Alain René notamment. Et voilà, il fallait lui rendre hommage. On a fait un texte assez... on a essayé d'être assez touchant pour la peine. Parfois, on est plutôt froid. Là, avec Delphine Seyrig, ça se prêtait avec effectivement son destin tragique et l'amour que lui a porté Michael Nansdal toute sa vie, en disant qu'il s'est jamais marié parce que voilà, il a toujours été amoureux de Delphine Seyrig. Et s'ils étaient des âmes très proches, l'amour n'était pas réciproque. Et voilà comment lui a... Après, voilà, on peut comprendre Michael Nansdal et regretter ce choix pour lui, mais...
Oui, tout à fait. Alors, on passe à 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie, après la signature des accords d'Évian. Il y a tout un dossier passionnant aussi sur la guerre d'Algérie au cinéma, comment la façon dont elle a été traitée par le cinéma français. Et puis, au cinéma cette année-là, en 62, il y a Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, dont un portrait lui aussi consacré, Jules et Jim de François Truffaut.
Ah ben, il y a du lourd. Hein.
Ah ben, complètement.
Il y a du lourd. Il y a, voilà, ces deux films importants. 62, c'est une très bonne année. Enfin, toutes les années des 60 sont... Il a fallu faire d'ailleurs des choix parfois, parce que là le film fait 520 pages. Mais bon,
oui.
Si on s'était vraiment écouté, ça serait beaucoup plus.
C'est vrai, je disais au tout début, hein, il est quand même plus volumineux que celui des années 30, 40 et 50. Hein.
50, c'était 480 déjà. Là, déjà, on est passé à 520. Voilà.
Ouais.
Voilà, 70, ouais. on sera aux alentours de 500, a priori.
Et puis, le livre tient à réhabiliter un film qui était un peu tombé dans l'oubli, Les Honneurs de la Guerre de Jean de Wever.
Oui, alors Alain René à l'époque l'a beaucoup défendu, même Jean Renoir a aussi défendu Jean de Wever. C'est un film qui a été fait en 60 et qui n'est sorti qu'en 62. C'est intéressant, c'est un film victime d'une certaine manière de la censure, même si ça joue à 2 ans d'interdiction, mais quand même. C'est un film que moi je trouve passionnant parce que c'est un film qui se passe à la fin de la guerre,
oui.
Et qui parle de résistance et qui donnait justement une image de la résistance qui était pas si glorieuse, on va dire.
Ouais.
Et c'est un film qui joue beaucoup sur la langue. Mmh. En deux mots, parce que l'histoire est assez intéressante, c'est vraiment la fin de la guerre. Et il y a des Allemands qui sont dans un village qu'ils occupent encore. Et ils n'ont qu'une envie, c'est partir. Ils sont vraiment dans cette optique de se dire on a perdu la guerre, c'est pas des nazis, ils veulent partir. Et pas très loin de là, il y a un village qui a été pour la peine libéré par les résistants. Et les résistants, on leur demande d'aller libérer le premier village. Et ils y vont, mais doucement. Hein.
Ouais.
Ils n'ont pas vraiment envie d'y aller. Ouais. Ils ont peur, c'est ce qui n'a pas plu à l'époque. Ils font un pique-nique entre-temps. Ils prennent leur temps. On oublierait que c'est encore la guerre. Et finalement, parce que les deux veulent pas faire la guerre, mais les deux n'arrivent pas à parler, ouais. N'arrivent pas à communiquer. Ouais. Les Allemands, c'est vraiment d'ailleurs joué par des acteurs allemands. Ils parlent allemand, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et les Français donc parlent français et ils ne se comprennent pas. Et à cause de cette incompréhension, finalement, ça va finir en tuerie. Et vraiment, il va y avoir un combat entre les deux. Le film s'arrête comme ça, alors qu'il y avait tous les éléments pour qu'il n'y ait pas d'échauffourée et que la paix soit déjà là. Et c'est un film sur ce hasard de l'histoire, cette erreur et ce problème de communication qui conduit au drame. C'est un film très très fin, très très photographique aussi,
ouais.
Parce qu'on donne tout de suite des ambiances dans le village. C'est un film très très bien filmé. Et voilà, moi je conseille à tout le monde de le découvrir. C'est vraiment un film important, totalement tombé dans l'oubli, mais bon, comme d'autres.
Oui. En 63, alors là, au niveau de l'actualité de l'année, l'assassinat du président Kennedy, les États-Unis donc s'enfoncent également encore un peu plus dans la guerre du Vietnam. De Gaulle met son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE.
Oui, ça viendra en 72 et maintenant avec la suite qu'on connaît.
Oui, c'est assez drôle de revoir tout ça, oui, de relire tous ces éléments historiques. Et puis Jean-Bastien Thiry, à l'origine de l'attentat du petit Clamart contre De Gaulle, est jugé. Et exécuté. Et
oui.
Puis au cinéma, on oscille entre le doulos et le mépris.
Oui. Ah ben voilà, pareil. Melville était extrêmement apprécié de la nouvelle vague. En plus, ça, Melville est dans À bout de souffle. Hein. Donc c'est vraiment un cinéaste qui, pareil, fait partie aussi des préférés cinéastes dits classiques. Le doulos, moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est le début de la bascule, on va dire, de Melville. Il avait fait déjà des polars dans les années 50. Hein,
il bascule vraiment dans le polar.
Dans le polar, et il commence à trouver sa manière. Il fait un film extrêmement rigoureux et petit à petit, il va épurer tout ça. Ça va donner notamment Le Samouraï, Le Cercle Rouge.
Mm-hmm.
Mais déjà, on est entre les deux. C'est un film extrêmement pareil du point de vue de la mise en scène, qui est extrêmement rigoureux, vraiment bien, bien, bien maîtrisé. Mmh. Jean-Paul Belmondo,
oui.
À nouveau, Serge Reggiani,
oui.
c'est un très très bon film. Mmh. Et Le Mépris, bah là on est avec Jean-Luc Godard, un film mythique qui s'inspire de l'Antiquité, qui s'inspire aussi de James Joyce,
c'est
tout l'art de Godard, de parler du cinéma avec Fritz Lang, Jack Palance.
Ouais.
Et
la musique.
La musique, évidemment.
Ouais. Et puis, encore de très beaux portraits sur cette année-là. Alors, Henri Verneuil, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi Mireille Darc, à la fois sex-symbole, artiste d'auteur, qui a surtout tourné en fait, dans des films commerciaux, parfois des comédies un peu potaches, même pour la télévision, hein, dans les années 90. Et on le sait moins, elle a aussi tourné pour Jean-Luc Godard, mais une seule fois, rien qu'une seule.
Ah oui, mais la pauvre. Enfin, Jean-Luc Godard n'était pas toujours très sympathique.
Tendre avec les acteurs et actrices.
Par exemple, pour le film Deux ou trois choses que je sais d'elle, il était amoureux de Marina Vladi. L'histoire s'était arrêtée. Il était déjà avec Anne Wiazimski, mais par exemple, il voulait lui faire faire tous les jours 2 heures de marche pour aller sur le tournage. Voilà, il n'est pas toujours très élégant. Et avec Mireille Dac, vraiment, il a été odieux puisque il a pris. Comme Mireille Dard, comme actrice commerciale, justement pour qu'elle ait cette image-là, tout en la traitant très très mal. Jean-Yann aussi n'a pas été ménagé, mais surtout Mireille Dard, qui était vraiment perçue comme la petite actrice populaire. Voilà, c'était l'occasion pour lui d'utiliser cette image-là, mais tout en la méprisant d'une certaine manière. On peut revenir sur l'idée de mépris. Et le film après est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment en 67, Godard fait 4 films, c'est le 4e.
Ouais.
Et autant La Chinoise, celui d'avant, il y a aussi Made in USA, il a l'idée de se dire que le cinéma va changer le monde. Il est presque naïf là-dessus puisque La Chinoise, il le fait, il fréquente Anne Wiazemski à l'époque qui est étudiante à Nanterre, il fréquente vraiment les milieux maoïstes qui vont finalement faire mai 68, donc il a ce regard avant-gardiste sur ce qui va se passer.
Ouais.
Il est naïf parce qu'il pense que son film va être apprécié par les autorités chinoises. Il rêve de le faire visionner en Chine et finalement les Chinois lui disent film de petit bourgeois, donc il repart vexé. Et avec Weekend déjà, il commence à se dire que non, le cinéma ne changera pas le monde. Il est extrêmement nihiliste. Son film l'est, puisque c'est vraiment un film sur un week-end où il n'y a que des voitures qui des embouteillages, des accidents de voiture. Il y a des gens qui parlent politique, mais c'est vraiment des discours abscons qui sont tout sauf constructifs. Hein. Et lui, déjà, ce regard de se dire, bon, ben voilà, finalement, le cinéma, je ne vais pas pouvoir le changer, il faut que j'arrête de faire du cinéma. Il a cette idée-là, et il va refaire du cinéma après, mais dans un autre cadre, en faisant des films collectifs, avec le groupe Diga Vertov. Enfin, plus ou moins, il va arrêter le cinéma jusqu'au début des années 80. Et ce film est vraiment porté par ce regard nihiliste, déçu, désappointé. Et ça se traduit par ce film absolument hors norme. Et voilà. Et pauvre Jean-Yann et pauvre Mireille Dard.
Je tousse. Donc, on va passer une petite musique.
Oui, par exemple. Hein.
1, 2, 3, 4.
Tu veux que j'aille te chercher de l'eau?
Voilà, c'était Petula Clark dans la bande-son. Je reprends mon souffle. Et nous recevons dans la bande-son, donc interview, Denis Zagnotti à propos du livre Une histoire du cinéma français. Les années 60 sont évoquées dans son 4e tome. Et Petula Clark qui chante pour le film À couteau tiré.
Oui, je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup, À couteau tiré.
Oui.
Voilà. Ouais. Petite série B réalisée par Charles Gérard.
C'est ça.
On connaît surtout comme acteur dans les films de Lelouch. et qui a effectivement avait fait le premier film, avait co-réalisé le premier film de Michel Deville, et après qui effectivement va faire quelques séries B comme ça, un peu policières. Voilà, le film à couteau tiré, c'est des gangsters qui s'entretuent pour récupérer le trésor d'Hitler. Il y a Pierre Mondi.
Oui, exactement.
Ouais. Françoise Arnoul, voilà. Égérie, surtout du cinéma des années 50, qui est encore là dans les années 60, heureusement.
C'est ça.
Françoise Arnoul, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs.
Tout à fait. En 63, il y avait aussi, pour terminer sur cette année, un portrait dans le livre, bien sûr, un portrait d'Alain Delon, et alors qui n'est pas aussi... pas aussi élogieux, mais qui est différent, parce que c'est aussi un acteur différent de Jean-Paul Belmondo, même si on les a toujours comparés et qu'eux-mêmes se sont aussi tirés la bourre.
Avec la guerre de Borsalino.
Ouais,
on en revient dans les années 70, un petit teaser, on revient de ça, c'est la guerre Borsalino où chacun voulait être sur l'affiche.
C'est ça.
Et finalement Alain Delon qui
produit du coup.
Qui produit, ouais, exactement. C'est des batailles d'égo, on va dire.
C'est ça.
Après Alain Delon, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement important qui a une filmographie qui parle pour lui, hein.
Visconti,
René Clément.
Ouais, c'est ça. À la fois Rocco et ses frères, Le Guépard chez Visconti.
Voilà.
Et puis il crée sa légende aussi avec Melville.
Oui, tout à fait. Le samouraï, voilà. Après, je suis un peu critique, un peu une petite pique comme ça sur en disant que les meilleurs rôles où il est, il parle très peu.
C'est ça.
Le samouraï, Monsieur Klein, il
est. Mais en même temps, c'est vrai. Alors, c'est ça aussi qui est appréciable dans le livre, c'est qu'il y a aussi un point de vue, alors qui est pas systématique ou quoi, mais il y a un style, il y a un ton dans ce livre.
Oui, il y a cette volonté-là sur Louis de Funès. Bon, on peut.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Très important, voilà. Se dire, Bourville a fait le Cercle Rouge. Louis de Funès a joué parfois de facilité en prenant des réalisateurs de deuxième zone comme Jean Giraud pour lui-même exister. Il s'est pas mis en danger parce qu'après c'était un inquiet. Pathologique. Donc voilà, c'est aussi pour ça. On raconte souvent que pour Oscar, Édouard Molinaro, qui était très professionnel, ne riait pas et ça le mettait mal à l'aise.
Ça l'a mis mal à l'aise. Et
voilà, exactement. Voilà, c'est
refusé de jouer ensuite avec lui.
Exactement. Et c'est un acteur mythique. Voilà, mais on peut regretter des petites choses et ça, on a tendance à le dire. Voilà.
On passe à l'année 1964 avec Jean-Paul Sartre qui refuse le prix Nobel de littérature, Jean Moulin qui entre au Panthéon avec le discours que l'on sait.
Entre ici, Jean Moulin.
Voilà. Et pendant que, malheureusement, Nelson Mandela est condamné à la prison à perpétuité en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid, et les parapluies de Cherbourg sont palme d'or à Cannes, et non l'inverse, et Louis de Funès triomphe donc au cinéma avec Le Gendarme de Saint-Tropez.
Il y a Fantomas aussi.
Oui.
Quelque part, il vole la vedette à Jean Marais.
C'est ça, oui, complètement, oui, dans le film où c'est lui qui cannibalise tout le reste.
Voilà, après, c'est Louis de Funès, une machine à cannibaliser un film avec son talent, sa vivacité, sa présence, c'est indéniable.
Alors, ça reste quand même un acteur qui a eu un immense succès public, notamment avec les fameux 17 millions d'entrées pour La Grande Vadrouille, qui a continué d'avoir de beaux succès d'audience aussi à chaque fois que le film passait à la télévision. C'est aussi un peu la caricature du français. Louis de Funès, c'est celui qui joue souvent des patrons, des hommes de pouvoir, qui râle tout le temps, qui est colérique.
L'importance de la bouffe aussi.
Oui,
restaurant, l'aile ou la cuisse. Après, on le dit, c'est rigolo parce qu'au début, il jouait plutôt le rôle du français moyen.
Oui.
Dans les.
Et ensuite, c'est vraiment bourgeoisé.
Voilà, ni vu ni connu, par exemple, il joue le rôle d'un braconnier, voilà, exactement. Dans Taxi, Roulotte et Corrida, c'est le petit français moyen qui va en Espagne, bricoleur, etc., etc. Après, il a, en vieillissant, voilà, il a eu cet emploi-là qui ne l'a plus quitté, dans lequel il excellait. Mais bon, après qu'il a repris sans cesse, voilà. D'ailleurs, on a tendance à dire un film de Louis de Funès en oubliant même
le titre,
le scénariste, le réalisateur, ça devient Louis de Funès.
Ouais, ouais.
Après, dans le livre, on met toujours des films en avant.
Et un regret qui est jamais eu de drame qui ait pu, dans lequel il ait pu tourner.
Oui, après, il y a, dans La Traversée de Paris, son rôle est assez féroce, mais bon, c'est un second rôle, Jambier, rue de Poliveau. Après, oui, je pense qu'il aurait été formidable.
Oui. Comme l'exploiter Bourville.
Comme elle a été, voilà, Bourville dans le Cercle Rouge. Et, ouais. Et après, il n'y a pas que le Cercle Rouge d'ailleurs. Il est étonnant dans Les Talons. Il y a des, dans Le Miroir à deux faces de Kayat, où il ne supporte pas que sa femme, Michelle Morgan, fasse de la chirurgie, devienne très belle. Enfin, il a joué sur ce double tableau dramatique et comique, ce que n'a pas fait Louis de Funès. Voilà, moi, je le regrette parce que je pense qu'il aurait pu être un formidable tragédien aussi, mais bon, il n'y avait pas cette volonté de mise en danger. Après, voilà, on met en avant la Grande Vadrouille dans le livre, hein, parce que c'est un film extrêmement important. Au-delà de son succès, c'est quand même un film.
L'histoire du cinéma, en plus, un livre qui. Voilà,
exactement, puis c'est un film qui Gérard Oury amène dans la comédie l'idée de se dire la comédie, ça peut être un film où on fait. Des belles images, on amène des moyens. Enfin, la comédie n'est pas un genre mineur. Et déjà avec le Cornio, mais là le scénario est peut-être un peu lâche. Et après, dans La Grande Vadrouille, donne toutes ses lettres de noblesse et donne vraiment les moyens de faire une grande comédie d'aventure populaire.
Oui. Et puis on parle d'un sujet quand même pour la France et les Français de l'époque aussi, qui a été quand même très douloureux.
Bien sûr.
Et on en rit.
Oui, c'est marrant parce que c'est cette époque où on commence à rire. Donc, je parle aussi du La Vie de Château de Jean-Paul Rapneau. Oui. Il y a aussi Martin Soldat, le film de Michel Deville. On commence à sourire. On commence à avoir un peu de recul et on le fait aussi. C'est des comédies qui il y a du talent derrière. Et donc, on peut se permettre de le faire avec une certaine finesse et sans occulter la violence de l'époque. Enfin, d'une certaine manière, en tout cas.
Alors, on passe à l'année 1965, on avance. Le général de Gaulle est réélu, mais au second tour.
Au second tour,
devant François Mitterrand. Yves Saint-Laurent lance sa robe Mandrian, qui est un triomphe, et on parle désormais français à la messe et non plus en latin, et le curé fait face aux fidèles. Voilà, pour ceux qui, ceux qui continuent d'y aller.
Après Vatican II,
le Concile Vatican II de Jean XXIII. L'année marque aussi la fin de la nouvelle vague. 1965.
Oui, on l'a. Alors, c'est pas.
C'est pas non plus. Il y a pas une date clé.
Non, mais après, c'est vrai qu'à partir de cette date-là, bon, il y a eu vraiment beaucoup d'insuccès. Chabrol qui a commencé à faire ses premiers films grâce à un héritage. Voilà, et rapidement, ces films ne marchent plus trop. Il y a vraiment des problèmes de fréquentation. Et après, beaucoup vont passer à autre chose. Alors, Godard va continuer à faire du Godard et va finalement se radicaliser entre guillemets un peu plus. Chabrol va commencer à faire des films extrêmement commerciaux. Les Tigres, vraiment, voilà, il fait Marie-Chantal contre Dr. K en 1965, avec Marie Laforêt, d'après Jacques Chazot, qui est une parodie de films d'espionnage. Truffaut, qui a toujours été un peu à part aussi, va être de plus en plus Truffaut, d'une certaine manière, avec des films de genre aussi. La mariée était en noir 67, voilà, d'après William Ayrich. Voilà, il va faire aussi beaucoup de films en costume, qui quelque part ne cadrent pas forcément avec l'image qu'on a de la nouvelle vague. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, c'est une deuxième étape.
Chacun va prendre des chemins de travers.
Des chemins de travers, c'est le cinéma en même temps. Des personnes, bon, il avait fait des films avant, mais Alain Cavalier fait un cinéma à part. Voilà, il y a des gens qui commencent à trouver des façons de faire différentes en s'inspirant quelque part de loin ou de près de la nouvelle vague. On n'en y est pas encore, mais Maurice Pialat va faire avec L'Enfance Nue un film qui pourrait s'inspirer d'ailleurs un peu du cinéma de Truffaut avec les enfants, mais qui a un regard encore plus naturaliste, encore plus ancré dans le réel. Enfin, il va y avoir dans cette partie-là des propositions de cinéma originales.
Alors, c'est aussi l'année de sortie de Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, et puis de l'excellent Compartimenteur de Costa Gavras, alors avec un casting d'enfer.
D'enfer, oui.
Beaucoup, beaucoup ce film, avec Yves Montand, Simone Signoret, Piccoli, Trintignant, Charles Denner, Jacques Perrin.
Oui, c'est un film extrêmement bien ficelé.
Ah oui.
Moi, je trouve qu'il y a, enfin, je le dis, alors après, peut-être, je parle sous ton contrôle, mais il y a un côté un peu giallo d'une certaine manière.
Complètement.
En tout cas, avec des morts répétées, un tueur qu'on ne voit pas, un suspense. On joue beaucoup sur les clairs-obscurs, les noirs, les lumières très fortes.
L'excellente musique de Michel Mann.
Exactement. Non, c'est un très bon film et c'est d'ailleurs pour ça que Costa Gavras va être rapidement repéré par les Américains qui vont lui permettre de faire Un homme de trop, qui est un film qui fait en 66 sur une vision assez originale et assez transgressive de la résistance, avec Michel Piccoli Piccoli, Jean-Claude Brialy, enfin il y a Jacques Perrin, enfin c'est un casting aussi incroyable. Oui, tout de suite, Costa Gavras, il a des castings incroyables.
C'est impressionnant. Et puis donc, il y a un dossier dans ce livre qu'on ne pouvait pas manquer dans la bande-son, c'est celui consacré aux grands compositeurs de musique de film. La musique de film qui explore donc durant les années 60 et aborde tous les styles, hein, donc ça va des comédies musicales évidemment, avec Michel Legrand et puis Jacques Demy, mais aussi pleinement dans la nouvelle vague avec Godard ou Agnès Varda. Il y a Georges Delerue, sa composition mondialement connue donc pour Le Mépris, que la bande-son d'ailleurs s'en est servi d'ailleurs pour faire sa bande-annonce pour cette saison 2022-2023. Delerue, alors c'est marrant dans le livre, hein, que tu racontes, je crois, même, c'est toi.
Oui, c'est moi.
Qui ne se destinait pas à la musique et encore moins pour le cinéma. Et en fait, c'est plutôt pour la métallurgie même. Et en fait, c'est un accident de vélo qui va venir le couper dans son élan, si je peux dire.
Oui, c'est exactement ça. Bah après, voilà, il y a des destins comme ça qui sont bizarres. Et tant mieux pour nous, puisque bon, voilà, il y a beaucoup de musique. Après, c'est intéressant aussi sur la musique de toujours dans cette de le voir par le prisme modernité et populaire. Des gens comme Michel Magne ou François Droubet. Voilà. La musique des aventuriers, par exemple, qui est magnifique. Ouais. C'est des gens qui sont extrêmement avant-gardistes, novateurs, qui utilisent déjà des instruments électroniques.
Les synthétiseurs, notamment.
Des synthétiseurs. Michel Magne aussi, quelqu'un d'extrêmement moderne.
Oui.
Et ils le font au service de films populaires, les aventuriers, Robert Enrico avec Alain Delon d'ailleurs et qui se tourne à Fort Boyard, ou Michel Mann qui fait la musique du monocle,
qui va aussi bien vers Fantomas que les Tontons Flingueurs.
Exactement, et c'est vraiment des musiques extrêmement savantes d'une certaine manière, mais qui se mettent au service de films populaires et on ne voit absolument aucun inconvénient à l'époque de faire cohabiter les deux choses.
Donc François Droubet, dont on citait le nom à l'instant, et avec la musique de Dernier domicile connu, dont Jeanne Chéral qui était en concert à Rezé au début du mois d'octobre, qui était également en interview dans la bande-son, puisqu'elle fait un spectacle cinéma consacré aux musiques de films, qui nous racontait que ça la mettait littéralement en transe.
Ah bah, la musique est magnifique, c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle participe encore à faire connaître ce film de José Giovanni, qui est un film par ailleurs très intéressant et presque important, puisque c'est presque la première fois, et même c'est la première fois que c'est Marlène Jobert dans le film, une femme joue le rôle d'une policière. Elle est avec Lino Ventura, qui au début la met sur des affaires de mœurs un peu sordides, sans intérêt. Finalement, elle va prendre part à l'enquête. Et voilà Marlène Jobert qui, après, à la fin de la décennie années 70, fera partie de l'anti-gang dans La Guerre des Polices. Mais c'est historiquement la première femme policière au cinéma, et voilà, grâce à la musique qui est maintenant plus connue que le film, on voit encore ce film là.
Heureusement, grâce à la musique, comme tu dis. Oui, le livre évoque aussi les musiques composées par Serge Gainsbourg pour Le Pacha, Les Cœurs Verts et le téléfilm Anna, et puis Un homme et une femme, évidemment.
Oui, alors là c'est Francis Lai. Voilà, la musique a participé à faire du film le succès mondial qu'il est. Bon, après, le film a aussi la Palme d'Or et il a eu l'Oscar Hollywood, si je ne m'abuse. Voilà, alors comment dire, Lelouch avait déjà fait pas mal de films, mais bon, c'est avec celui-là qu'effectivement il devient extrêmement connu et vraiment il trouve son style un peu. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'improvisation. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. Il y a ce rapport et avec l'acteur où voilà une caméra très proche portée, ce plaisir de filmer.
Tout ce qui est Lelouch en fait est déjà là.
Exactement.
Et puis on signale aussi dans ce chapitre de l'année 65 un très beau, très émouvant portrait consacré à Françoise d'Orléac, décédée dans un tragique accident de voiture en 67. Qui n'était pas. Alors c'est très beau.
Alors ça c'est Daniel Patte qui a écrit ce texte-là.
Qui en fait où ça n'était pas la sœur de Catherine Deneuve mais l'inverse.
Oui c'est vrai. Puisque même Catherine Deneuve, historiquement, elle voulait pas vraiment faire du cinéma. Non. C'est vraiment Françoise Dorlas qui voulait le faire, et c'est elle qui, alors il y a eu effectivement 64, les parapluies de Cherbourg. Mais Françoise Dorlas, elle tourne avec Roman Polanski dans Cul-de-sac. Enfin, elle est dans L'Homme de Rio, qui a un succès énorme en 64. Ouais. C'était elle qui était appelée à devenir la star. Ouais. Et voilà, dans Les Demoiselles de Rochefort, elles sont à égalité d'une certaine manière. Mais bon, c'était Dorlas, a priori, celle qui allait vraiment percer. Et le destin en a voulu autrement, malheureusement, de manière très violente avec son accident de voiture et le fait que, enfin voilà, c'est une affaire, c'est une histoire terrible.
On passe à l'année 1966 avec la révolution culturelle en Chine, Mao qui prend le pouvoir par la force, 1 million de morts tout de même. Un homme et une femme, donc de Claude Lelouch qui remporte la Palme d'Or et 2 Oscars. La Grande Vadrouille qui remporte un succès public colossal, comme on l'a dit tout à l'heure, 17 millions d'entrées, qui conservera ce record durant plusieurs décennies.
Oui, faudra attendre.
Il faudra attendre Titanic notamment pour que ça soit délogé. Sorti également de Pour une poignée de dollars, le premier western de Sergio Leone. Et en 67, le Che Guevara est capturé et tué en Bolivie. La guerre des 6 jours permet à l'État d'Israël de prendre possession notamment de la Cisjordanie et de Jérusalem, qui provoque le départ 1 million de réfugiés palestiniens. Et puis c'est également l'arrivée des colonels en Grèce qui fera l'objet du film Z de Costa Gavras avec Yves Montand. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le succès d'un film non comme La Grande Vadrouille, on l'a dit tout à l'heure, mais qui continue encore aujourd'hui, malgré les générations qui passent, d'avoir encore du succès à la télévision, notamment quand il passe.
Oh, après, je pense qu'il y a il y a ceux qui l'ont vu qui ont à cœur de le montrer. De voilà. Ouais. Après, un bon film reste un bon film, une bonne histoire. L'histoire est quand même très très. Alors, à la base, le film devait durer plus longtemps et La Vadrouille devait continuer jusqu'en Espagne. Donc, le film a été raccourci. Mais c'est un film qui mêle aventure, suspense, si j'ose dire, humour, avec des personnages extrêmement charismatiques. Même Marie Dubois, il y a un portrait de Marie Dubois. Le personnage féminin est quand même écrit et existe, ce qui n'était pas le cas dans Le Corneau, qui est le précédent film de Gérard Oury qui a eu le succès qu'on connaît, qui est moindre, mais qui a donné donc l'envie à Gérard Oury de remettre ça avec La Grande Vadrouille. Il y a quand même, voilà, il y a tous ces moyens. Ça a été tourné à l'Opéra de Paris, ce qui est exceptionnel, la reconstitution. Enfin, c'est un film, voilà, de qualité vraiment.
Et si on regarde un peu un autre film à grand succès, qui a aussi dépassé le succès de La Grande Vadrouille, donc Bienvenue chez les Ch'tis, ou même les films à succès d'audience à télé, des films de l'équipe du Splendide, est-ce à dire que le genre préféré des Français serait la comédie ?
Ah bah, en tout cas, ça se vérifie souvent, je pense qu'on peut le dire. Après, on aime beaucoup les films policiers aussi en France. Là, il y en a un peu moins ces dernières années, mais après, quand on voit le box-office pour les années 60, quand on continue dans les années 70, il y a quand même énormément de comédies. Donc ça, c'est, je pense que les gens ont besoin de se divertir à toute époque.
Et puis, alors, dans un autre portrait qui m'a fait plaisir dans ce livre, c'est celui consacré à Jean-Pierre Mocky, un peu le réalisateur maudit que la télévision a bien aimé dans les années 90, notamment décrédibilisé, mais qui a tourné avec à ses débuts de grands films, et qui s'est amusé à porter un regard un peu éclairé, critique sur la société, à essayer de ridiculiser la religion, la télévision, l'armée, la police, les politiques. Tout ce qui était institutionnel, en fait.
Oui, dès le début, les dragueurs, enfin. Après, je trouve que dans ces années-là, et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'il y ait un portrait Mocky, dans ces années, il fait ses meilleurs films.
Oui.
Après, dans les années 70, il se prend peut-être un peu trop au sérieux, il bâcle un peu des choses dans les années 80, mais à cette époque-là, il fait des films majeurs, enfin.
Et puis, il tourne aussi avec quasiment tous les grands acteurs, grandes actrices françaises.
Oui, carrément. Et puis il y a cette critique, mais qui se fait d'une certaine manière assez légère.
Oui.
C'est un peu un poil à gratter, mais sympathique la grande lessive sur la télévision, un drôle de paroissien, La Grande Frousse, qui est un film qu'il faut revoir parce que c'est presque un film de genre fantastique avec une galerie de personnages complètement bizarre tout le long et ça va jusqu'au bout et ça assume ses bizarreries. Ouais. C'est un film extrêmement intéressant. Mmh. Et là, il y a quand même énormément de films majeurs en quelques années et totalement à part. Hein. Pour la peine, ça ne ressemble à rien, en tout cas en termes de discours.
Ça, c'est sûr, oui.
Et voilà.
Mais c'était pas moralisateur.
C'était pas moralisateur. Après, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Et je le dis dans le texte,
oui, c'est très bien,
un peu dans les années 70. Il y a des films, par exemple, pour Un linceul n'a pas de poche. Mmh. Des films où d'un coup, mais de manière un peu trop caricaturale, il critique les puissants, mais en se donnant le rôle un peu lui-même. D'ailleurs, du coup, dans ces films-là, où Le piège à con, c'est en 79, il se donne un peu le rôle de chevalier blanc qui va justement pourfendre les travers de la société et c'est pas là où il est le meilleur. Et après, bon, moi je préfère aussi voir Francis Blanche, Bourville, tous ces acteurs là que lui-même en premier rôle. C'est aussi peut-être un peu égoïste de ma part de me dire, bon, tant qu'à faire d'avoir ces comédiens là, bon, c'est bien, c'est quand même pas mal.
Oui, d'ailleurs, c'est étonnant, tous ces comédiens et comédiennes qui acceptaient de tourner pour lui. Parce qu'il leur proposait vraiment des rôles aux antipodes de ce qu'ils avaient l'habitude de jouer, et même des fois physiquement transformés. Quand on voit Catherine Deneuve brune et frisée.
Oui, dans Un genre trouble. Oui, je le dis, je fais un moment... Bon, le texte est assez original dans sa... Bon, vous lirez, hein. Mais je fais des moments des intermèdes, et je fais un intermède sur justement les perruques, les moustaches.
Oui.
À chaque fois, il y a des... Tout ça pour dire que bon, tout ceci n'est pas très sérieux. Après, il y a aussi tout un intermède sur un peu les bruits. Francis Blanche dans un des films, il ne parle que par borborygme comme ça. Il y a une espèce c'est un cinéaste à part, hein, complètement. Mais qui vaut la peine d'être découvert, en tout cas dans cette période, surtout des années 60.
Et puis il y a le fabuleux portrait consacré à Catherine Deneuve. Qui a toujours cherché dans le choix des films qu'elle a choisi dans lesquels elle a choisi de tourner, de casser cette image un peu de femme lisse, conventionnelle, dans laquelle on voulait toujours un peu la caser.
C'est ce qu'on a essayé d'exprimer avec le texte, qui est assez rigolo d'une certaine manière. Un peu comme Lino Ventura d'une certaine manière,
où Lino Ventura,
il fallait montrer que le physique fort de Lino Ventura pouvait être justement mis à mal et derrière, il y avait quelqu'un de fragile, dans le cas de Catherine Deneuve.
Le livre rappelle notamment des films que peut-être le grand public a oublié ou ne sait même pas qu'elle a joué dedans, comme Répulsion de Polanski, Les Prédateurs de Tony Scott avec David Bowie, et puis où elle joue le rôle d'une vampire quand même.
D'une vampire, dans Répulsion, elle joue le rôle d'une schizophrène.
Exactement.
Le film est terrifiant, vraiment.
Complètement.
Elle est d'une froideur absolue, elle est flippante. Hein. Et après, bon, encore aujourd'hui, elle a tendance, je parle de potiche rapidement, mais voilà, à se donner des rôles où elle se donne pas forcément le beau rôle d'une certaine manière. Elle a en tout cas cette image de star figée, elle a toujours essayé de jouer avec, de le mettre à mal, et c'est tout à son honneur.
Ou la prostituée dans Belle de Jour.
La prostituée dans Belle de Jour, qui est mis en avant aussi. C'est un film important, Belle de Jour, 67 également.
Et puis c'est aussi d'immenses rôles, comme dans Le Dernier Métro de Truffaut.
Bien sûr.
Indochine, évidemment. On passe aux années 68 et 69, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc 68, année bien connue, hein, pour les événements que l'on sait du mois de mai. Annulation du Festival de Cannes, auquel Godard et Truffaut sont montés au créneau. En 69, L'Homme a marché sur la Lune. De Gaulle, par contre, lui, est parti. Le Concorde s'est envolé. L'actrice, malheureusement, Sharon Tate, elle, a été sauvagement assassinée par la Manson Family, alors qu'elle était enceinte. Pour finir, on va citer ce qu'on va retrouver dans ce livre, un long, intense portrait de François Truffaut.
C'est le plus long en fait. Hein.
Ouais.
Bon, je suis assez truffaldien, je trouve que c'est intéressant d'essayer de décoder donc c'est divisé en l'enfant, la femme, l'homme, le couple, voilà comment on retrouve ces thématiques dans ces films et comment c'est traité. C'est un texte qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un cinéaste que j'adore,
qui fait référence aussi dans le cinéma mondial.
Ah bien sûr, évidemment.
Et puis il y a également plein d'autres portraits encore hein, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, mais qu'on invite évidemment les auditrices et les auditeurs à découvrir dans une histoire du cinéma français donc consacrée aux années 60, donc un portrait notamment de très émouvant aussi de Bernadette Lafont, il y en a un sur Jacques Demy, Yves Montand, Claude Riche, Claude Chabrol, Annie Girardot, et puis évidemment le portrait de Jean-Pierre Léaud qui fait la couverture, comme on disait tout à l'heure. Et parmi aussi les sorties de l'année 69, il y a un monument hein, de Jean-Pierre Melville qui sort au cinéma, qui est L'Armée des Ombres.
Oui, qui est extrêmement détaillé. Enfin, on a essayé de le détailler, oui.
Avec une scène mais qui est, dont on ne se remet pas de voir Simone Signoret à la fin de ce film.
Ah ben bah oui, bien sûr. Hein. Mmh. Après, c'est intéressant. Moi, c'est un film qui me bouleverse chaque fois.
Oui.
Sa faiblesse, c'est d'avoir gardé une photo... quelque part qui trahit, qui va la trahir et la fin qui est très dure parce que d'un coup voilà quand même il y a c'est d'une violence et d'une noirceur absolue c'est un portrait extrêmement sombre de la résistance qui vraiment pour la peine casse totalement la mythologie qui avait été créée à partir de la fin de la guerre avec le père tranquille de Clément. On revoit aux années 40 et la bataille du Rail là d'un coup on est vraiment dans des personnes qui deviennent des spectres et qui meurent pour la cause, enfin qui se perdent, qui perdent leur humanité. Et c'est un film d'après Joseph Kessel, un film magnifique. Hein.
Mm. Et puis il y a aussi Que la bête meurt de Claude Chabrol, un film assez effrayant aussi sur la condition humaine avec alors là Jean-Yann dans un sans doute son rôle le plus fou.
Oui. Après il est très bien dans nous ne vivrons pas ensemble sur notre cadre. Oui. Et là dans le texte essaye de mettre en avant le fait qu'il y a un côté presque mythologique. Lui c'est une espèce de monstre qui mange comme ça, qui est une espèce d'ogre. Et en face il y a la culture de Michel Duchossois, écrivain.
C'est très bien expliqué d'ailleurs comment les deux mondes se confrontent.
Et oui. Et moi c'est un Chabrol majeur hein, évidemment. Voilà 69. Après il y aura Le Boucher. Ça commence. Ça entame une très bonne période pour Chabrol qui va durer quelques années, fin 60, début 70. C'est une très bonne période pour lui. Et ce film-là, reste encore dans les mémoires.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Denis.
De rien, merci à toi, Jérôme.
On a passé encore une fois une heure ensemble, qui est passée, mais à une vitesse folle. Pourtant, on a parcouru quand même 10 ans, de 1960 à 1969, donc une histoire du cinéma français. Donc, c'est aux éditions Leitmotiv, que l'on peut se procurer, commander dans sa librairie.
Dans sa librairie ou auprès du site éditions Leitmotiv, mais dans votre librairie, vous pouvez le commander sans problème.
Voilà, et donc on attend maintenant. Alors, déjà, découvrez celui-là, ça vous donnera peut-être envie, si vous n'avez pas les précédents, de vous les procurer également, j'en doute pas. Et puis, surtout, d'attendre le prochain consacré aux années 70.
Oui, qui sortira, je pense, avril-mai 2023.
Très bien.
Voilà. Il est terminé, il faut le fabriquer.
On prend date et on lance déjà l'invitation. D'accord. Pour la bande.
Avec plaisir, mais encore merci.
Merci à toi, Denis. Et puis, dans un instant, la suite des programmes sur JetFM, avec notamment Vincent, qui est également un invité dans son émission, mais je ne vous en dis pas plus. On se quitte en musique avec des musiques de films de cette époque bénie, bien sûr.